Bonjour à toutes et à tous, que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Je veux commencer à vous lire trois passages. Le premier, il se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 20 jusqu'à 24, voilà ce qu'il dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifie ce précepte, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves des pharaons en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grand et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'avait commandé. Le deuxième se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43 et le verset 16. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et le troisième verset, il est tout court, il se trouve dans le livre, dans l'évangile de Marc, chapitre 1 et verset 8, qu'il nous dit, oui, Jésus, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Voilà ces trois versets. Ces textes, ils nous parlent de différents passages. On a vu les passages de la mer Rouge, hein, du peuple d'Israël, hein, à leur sortie d'Égypte. Il y avait cet obstacle-là, mais Dieu les a fait passer. Hein. Il y a aussi le passage de changement de vie. Ils étaient esclaves, mais ils sont devenus un peuple entier de Dieu, et Dieu, il a dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc, c'est encore un passage d'une situation à une autre. Et il y a le troisième verset qu'il nous dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Là, c'est encore un passage, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus, il vient dans le cœur, dans nos cœurs, il y a automatiquement un passage du royaume des ténèbres, nous sommes transportés au royaume des lumières. Et ensuite, pour le peuple d'Israël, il y avait aussi l'obéissance aux 10 commandements que Dieu il leur a donné. Si vous voulez, ces trois passages, ils nous montrent un chemin nouveau, une nouvelle direction. Et Dieu sait si on a besoin de nouvelles directions, de regarder notre propre vie et se dire où est-ce que j'ai mal marché. On est là à 2 jours de cette nouvelle année et je crois que généralement on tire des résolutions, n'est-ce pas? La Bible nous dit examinez-vous et regardez si vous êtes sur le chemin de la foi. Donc, nous devons nous examiner, regarder cette année qui s'est écoulée, et se dire, Qu'est-ce qu'il m'a apporté cette année? En quoi j'ai failli? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir encore plus et davantage avancer avec les seigneurs? Et ce nouveau passage dans cette nouvelle année, il doit nous encourager à aller plus loin. Pourquoi? Parce que les seigneurs, ils le demandent. Dans ces trois passages qu'on a vus, chaque fois, il y a passer outre, avancer, ne pas s'arrêter. Même si on est tombé des fois, il faut se relever et partir. Et nous savons que nous ne devons pas nous relever tout seuls parce que nous n'arriverons pas. Mais nous avons le Seigneur auprès de nous. Il nous a dit que les justes, ils tombent sept fois et sept fois, ils se relèvent. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur. Voilà pourquoi cette nouvelle année, j'ai cherché de, en quoi, je l'ai fait encore une fois, je vous l'ai dit toujours, hein, lorsque je prépare un message, je l'ai fait d'abord pour moi. Alors, comme il s'agit de cette nouvelle année, je l'ai fait pour moi, mais je suis sûr que ces résolutions que j'ai retirées de la parole de Dieu, ils vous sont aussi très utiles. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu comme moi. Vous êtes des enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu et qui, malgré toutes ces choses-là, nous tombons si souvent. Et il y a des choses que nous devons laisser de côté pour que nous puissions encore plus et davantage avancer avec le Seigneur. Et j'aimerais nous aider encore une fois, pas vous aider, mais nous aider afin que nous puissions prendre des bonnes résolutions. Et toutes ces bonnes résolutions, elles ne sont pas tirées du monde, mais toutes ces résolutions, je les ai retirées de la parole de Dieu. Il nous est dit, on vient de le chanter, lis la parole, mets-la en pratique, car c'est comme ça que tu vas avancer. Et toutes ces résolutions que j'ai retirées, c'est des résolutions qui nous feront avancer dans cette nouvelle année. Car vous savez, ça peut-être que ce soit la dernière année. Le Seigneur, il a dit, il peut revenir à n'importe quel moment. Et la Bible, encore une fois, elle nous dit « rachetez les temps ». C'est-à-dire que si cette année 2019 a été une année moyenne, une année dans laquelle nous avons regardé à nous-mêmes au lieu de regarder à Dieu, que cette année 2020 il soit une année à l'honneur et à la gloire de Dieu. Mais comment pouvons-nous faire ça? En enlevant de notre propre cœur les choses que nous avons faites dans cette année et les remplacer par de nouvelles choses. Voilà pourquoi j'ai pris cette résolution, un peu comme six résolutions, un peu comme les six jours de la création. Vous savez que ensuite Dieu, il a créé l'homme et il lui a insufflé son esprit et il a commencé à marcher avec le Seigneur. Mais encore une fois, nous avons cette nature pécheresse encore en nous. Voilà pourquoi ces résolutions, elles sont d'abord pour moi, mais elles vous seront très utiles si vous êtes vraiment des enfants de Dieu. D'abord, pour devenir enfant de Dieu, vous savez bien ce qu'il faut faire. Le Seigneur Jésus, il nous dit dans son évangile, « Jugez-vous et vous ne serez pas jugés. » C'est-à-dire, reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Reconnaissons que nous avons offensé Dieu. Reconnaissons que nous ne méritons rien. Confessons nos péchés. Il faut se repentir de nos péchés. Jugeons-nous. Oui, Aldo, tu mérites le châtiment. Tu n'es rien du tout. Tu es condamné. Mais Dieu, il me dit que si je me tourne vers lui, il m'accordera le pardon de mes péchés. Donc, je me juge. Et donc, Dieu ne me jugera pas. Parce que Paul, il nous dit, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc, si nous nous jugeons, Dieu, il nous pardonne et il nous accorde son salut. Mais encore une fois, nous avons en nous cette nature pécheresse. Et une fois que on a en nous ce salut, il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à nettoyer. C'est un peu comme dans une vitrine, vous savez, ils viennent le faire, les vitres, ils viennent de les nettoyer, mais vous savez, s'il y a le soleil qui touche ces vitres, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas propres. Et qui c'est qui peut vraiment nous purifier? C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà, alors je vous donne ces résolutions que j'ai prises pour ma propre vie, pour cette année qui vient de commencer, qui commencera dans 2 jours. Ben, on est là, hein, c'est le 29. Hein. Et je suis sûr que pour vous aussi, elles sont valables. La première résolution, on la trouve dans Jacques, chapitre 3, le verset 2. Il nous dit... Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La première résolution, c'est tenir notre langue en bride. C'est tout petit, hein? Mais... elle est très puissante parce qu'elle a ce pouvoir de bénir ou de maudire, de bénir ou de condamner. Et alors à Dieu, il nous dit, tiens ta langue. Ecclésiaste nous dit, avant d'ouvrir la bouche, réfléchis. Parce que chaque fois que nous parlons, sans qu'on soit dirigé par l'Esprit de Dieu, nous faisons du mal. Donc, si nous gardons notre langue en bride, alors là, nous allons marcher avec le Seigneur. Bien sûr, hein, nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous aide. Parce que, encore une fois, tout seul, nous ne pouvons pas. Hein, nous ne pouvons pas ne point calomnier, ne point parler mal contre un frère ou une sœur. N'est pas dit bonjour à quelqu'un. Et il y en a, pas seulement ici dans cette église, mais dans toutes les églises. Pourquoi? Parce que le monde est rentré dans l'église. Il y a des frères et sœurs qui ne se disent pas bonjour. Est-ce que c'est normal ça? Nous n'arrivons pas à pardonner nos frères et sœurs. Et toutes ces choses-là, ils nous font du mal, et surtout, ils font du mal à Dieu. Dieu, il nous le dit dans sa parole. Il faut que vous soyez des frères et sœurs. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres. Et pour casser tout ça, c'est la langue. Peut-être que nous le pensons, mais si nous le pensons, il reste dans notre tête. Mais lorsque nous l'exprimons, alors c'est là qu'on fait mal. Voilà pourquoi la première résolution pour cette année, pour moi, comme pour chacun de vous, hein, tenir notre langue. Utiliser la langue que pour bénir, que pour dire du bien de mes frères et sœurs. Même si on m'a fait du mal, il faut que je dise du bien. Car chaque fois que je dis ou je pense mal d'un frère ou d'une sœur, je pense mal de Jésus-Christ. Lorsque je pense mal de l'Église, je pense mal de Jésus-Christ. Voilà pourquoi que ma première résolution, je me suis dit, il faut que je tienne ma langue. Et c'est bien pour moi et c'est bien pour vous. La deuxième résolution, je l'ai trouvée dans Jean, chapitre 11, le verset 40. Il dit... Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, deuxième résolution, persévérer malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous arrive, persévérer et jamais nous laisser aller, ne dire mais c'est pas la peine, À quoi ça sert que je suis chrétien? À quoi ça sert que je suis chrétien, que je suis dans la douleur, dans la souffrance? Qu'est-ce que tu fais, Dieu, là? Persévérez. Le Seigneur Jésus, il nous a dit, persévérez, continuez, veillez, persévérez. Vous souvenez l'histoire de cette femme qu'il avait reçu des visites pendant la nuit. Il n'avait pas de pain. Il a été chez les boulangers. Il faisait nuit. Les magasins étaient fermés. Il a commencé à frapper. Et il frappait. Le boulanger, il s'élève, il a dit, alors tu vois pas que c'est fermé. Et il continuait à frapper. Et c'est là que le Seigneur, il a dit, persévérez. Malgré les choses qui nous arrivent, il faut persévérer. Il ne faut pas douter de la puissance de Dieu. Il ne faut pas douter de ce que nous lisons dans la parole. Des fois, nous lisons, il y a des versets, nous les lisons, mais nous n'y croyons pas. Nous n'y obéissons pas. Et chaque fois que nous n'obéissons pas, ça nous tombe dessus. Hein? Il faut croire fermement à ce que Dieu nous dit. Lorsqu'il nous dit « avance », Pierre, vous en souvenez, Pierre, lorsqu'il a vu le Seigneur qu'il venait, lui, il a dit, il croyait que c'était un fantôme. Il a dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, dis-moi de venir vers toi. Viens. Il a mis les pieds. Il a marché un peu. Mais ensuite, il a regardé autour de lui. Et paf, il a commencé à enfoncer. Ah, Seigneur, sauve-moi. Il faut avancer lorsque Dieu nous dit, avance. Il faut s'arrêter lorsque Dieu nous dit, arrête-toi. Paul, il voulait aller à droite et à gauche. C'était un grand évangéliste. Il avait à cœur de répandre l'évangile. Il voulait aller partout, là. Mais le Saint-Esprit a dit, non, là, tu ne vas pas. Mais je vais aller pour prêcher ta parole, Seigneur. Non, tu n'y vas pas. Et il n'y a pas été. Écoutons ce que l'Esprit nous dit. Apocalypse, il nous met en garde. Et c'est lui qui a des oreilles. Écoute. Avant d'agir, écoutons. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, il faut le croire. Il ne faut pas douter. Thomas, vous en souvenez Thomas? Thomas, il a douté. Il a douté. Je ne vais pas croire jusqu'à quand j'ai mis les doigts. Le Seigneur, il est revenu, il a dit, Thomas, viens, mets les doigts. On ne sait pas s'il a mis les doigts. Hein. Mais la seule chose qu'il a fait... Il s'est mis à genoux, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, il faut croire à ce que Jésus est. » T'as dit qu'il est Dieu. Il faut croire à ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous. Il faut croire à ce que Jésus il fera pour chacun de nous, c'est-à-dire qu'il va revenir, il va nous prendre, il va nous amener là-haut, où il nous a préparé les places, et nous allons revenir avec lui, et nous allons régner avec lui. Il faut croire à toutes ces choses-là, et pas se dire, oui, mais c'est des histoires. Lorsqu'on dit aux gens, répentez-vous car le Seigneur il va revenir. Il va revenir, mais t'es fou toi. Il a dit ça il y a 2000 ans. Mais Pierre, il nous le dit, oui, le Seigneur, il va revenir. S'il n'est pas revenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il est patient. Dieu ne veut pas que les gens ils soient perdus. Il use des patiences. Dans ma vie, comme dans la vôtre, je suis sûr que le Seigneur a usé des patiences. Parce que vous ne vous êtes pas repenti au premier moment où vous avez compris que vous étiez des pécheurs. Dieu est pécheur, bon. Et alors le Seigneur, il a continué, patient, mais un jour, nous nous sommes tournés. Et c'est grâce à la patience de Dieu, si je suis là, c'est grâce à sa patience. Combien de fois je me suis éloigné du Seigneur, mais chaque fois, il m'a fait revenir. Voilà la grandeur de Dieu, hein? Persévérer, malgré tout. Troisième résolution pour ma vie et pour votre vie, il se trouve en Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Et notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand on voit aujourd'hui dans ce monde dans lequel on vit, qu'on n'a aucune retenue par rapport au corps, on vit dans une société du plaisir, on vit dans une société de sexe, plaisir momentané, joie momentanée. Et ici, le Seigneur, il nous dit à nous qui avons Jésus-Christ, qui avons accepté Jésus-Christ, il dit, mais pourquoi est-ce que vous allez vous vautrer dans ces choses-là? Vous savez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si seulement nous allons réfléchir à cela, chaque fois qu'il y a une tentation, où il y a une mission qu'on ne doit pas avoir, où il y a un endroit dans lequel on va, mais en tant que chrétien, c'est pas notre place. Et se dire, mais Aldo, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus-Christ, il irait à cet endroit-là? Pourquoi nous devons faire ça? Parce que nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons pas. Beaucoup de gens ils disent, c'est ma vie. Si on est chrétien, c'est pas notre vie. Nous appartenons au Seigneur. Et nous devons faire ce que le Seigneur nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? On s'appartient pas. On appartient au Seigneur et nous devons faire les choses du Seigneur. Voilà, que cette année et ma vie elle soit une année à la gloire du Seigneur. Que je puisse accomplir les choses qu'il dit, qu'il a préparées pour que je puisse les accomplir. Et c'est ça la troisième résolution, ça veut dire une vie purifiée de toutes choses. La pureté. Vous savez pourquoi autour du temple, du tabernacle, dans le désert, tout était entouré avec une toile blanche? Mais c'est justement ça, parce que c'est la pureté. C'est pour avertir le peuple d'Israël qu'une fois passé cette porte, il devait être pur. On ne rentre pas devant le Seigneur avec du péché. On ne prie pas le Seigneur lorsqu'on n'est pas en communion avec lui, lorsqu'on est dans les péchés. On ne prie pas. D'abord, on se met en règle avec le Seigneur. Et ensuite, tu pries. Parce que si nous sommes dans les péchés, Dieu ne nous écoute pas. Car avec les péchés et Dieu, il n'y a aucune communion. On peut toujours parler. Il faut que notre vie soit pure pour que nous puissions. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons été purifiés. Et avant de nous approcher du trône, nous devons demander pardon. On parle beaucoup du trône de la grâce. Mais avant le trône de la grâce, il y a le trône du jugement. On doit se juger. Voilà, je vais m'approcher de Dieu. Je regarde à l'intérieur de moi-même et je me dis, comment est-ce que je suis par rapport à Dieu? Il y a ce péché-là. Alors, je le confesse. Je l'enlève, ce péché, par la grâce de Dieu et je peux m'approcher. Et c'est là que Dieu il m'accueille. C'est ça que le Seigneur il nous demande comme résolution pour le 2020. Que nous ayons une vie purifiée. Purifiée. Il y en a tellement qui vivent une vie qui n'est pas pure. Le monde tout autour de nous. Mais Dieu il nous demande d'être pur. Surtout nous que nous lui appartenons. Quatrième résolution. Il se trouve dans Luc 21, 36. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez. Quatrième résolution, prendre la résolution de prier encore plus et davantage. Car c'est la prière qui nous tient debout. C'est la prière qui nous tient debout. C'est quoi la prière? La prière, c'est la conversation avec Dieu. Voilà. On parle avec Dieu. Il y en a qui sortent des prières magnifiques, des prières théologiques. Voilà. Que lorsqu'on entend prier, on se dit, ah, hein? On ouvre les yeux, on se dit, ah, si je pouvais prier comme ça. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Ce matin, il nous le dit, que nous ne savons même pas quoi demander au Seigneur, comment prier. C'est là que le Saint-Esprit, il rentre en nous. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier davantage et de parler à Dieu comme si on parle à papa et à maman. J'aime bien, dans notre église, il y a des frères et sœurs que lorsqu'ils prient, ils appellent Dieu papa. C'est comme ça que Dieu demande. C'est comme si on parle à notre papa, à notre mère, avec les mots que nous savons dire. C'est ce qui compte, c'est que ces mots puissent glorifier Dieu. C'est tout ce que nous avons fait. Plus de temps de prière. Hein? Et c'est pour cette année 2020, voilà la résolution que j'ai prise de m'impliquer encore plus et davantage dans la prière. Parce que je vais rentrer encore plus et davantage dans la communion avec Dieu. Et c'est avec ce temps de prière que nous pouvons rester en communion avec Dieu. Il dit « Priez en tout temps ». Est-ce qu'on peut prier en tout temps? On ne le peut pas, on a notre travail et tout. Mais ce mot en tout temps, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, nous devons le faire dans le Seigneur. Si je travaille, je fais le travail selon le Seigneur, pour le Seigneur, comme il faut. Et pas se dire, ben voilà, je vais fumer la cigarette, au lieu de prendre 10 minutes, je mets 20 minutes, une demi-heure. C'est un exemple idiot, hein. Mais lorsqu'on travaille, on travaille et on est avec le Seigneur en tout temps. C'est ça que le Seigneur veut. Et j'ai cette résolution dans mon cœur que il faut que je le fasse. Car dans les moments difficiles dans lesquels moi, comme vous, on tombe dans la tentation, on tombe dans les péchés, c'est parce que nous sommes pas dans la prière. David, vous en souvenez ce qu'il a dit? Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Lorsqu'il y a la tentation, ça veut dire quoi ce verset? Lorsqu'il y a des tentations, je me souviens de la parole que j'ai lue, de le verset que j'ai appris par cœur. Et voilà. Et au lieu de me laisser éloigner, je répète ce verset. Luther, il avait dit, Luther, vous le savez bien, on l'a dit plusieurs fois, on ne peut pas empêcher l'oiseau de se poser sur notre tête. On ne peut pas. Pas de se poser, mais qu'il reste dans notre tête. Il faut l'enlever. Le péché, il est là. Il nous a dit qu'à Caïn, il lui a dit, le péché est couché à ta porte. Et Pierre, il nous dit, le péché, le Satan, il est comme un lion qui rôde autour de nous. Ça suffit que nous lui laissons une petite entrée et il se faufile dedans. Et c'est fait pour nous. Comment est-ce qu'on peut le faire sortir? Par la prière. Par la prière. Plus de temps de prière. Cinquième résolution, 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, résolution, œuvrez pour Dieu, travaillez pour Dieu. Car tout ce que nous faisons pour Dieu, il nous est dit ici, il ne sera pas vain. Dieu n'oublie pas. On peut oublier ce que Jocelyn fait pour moi, ou une autre personne le fait pour moi, ou ce que moi j'ai fait pour Jocelyn. Il peut l'oublier, mais Dieu, il n'oublie rien. Surtout si on le fait pour sa gloire. Il nous a dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur et dans le Seigneur, il sera récompensé. Récompensé. Dans cette vie ou dans le tribunal de Christ. Ça se peut qu'on œuvre pour le Seigneur ici-bas, mais nous sommes dans la peine, dans la tristesse, dans la souffrance. Mais Dieu, il sait toutes ces choses-là. Il nous dit qu'il y aura une récompense. Tout ce que nous faisons pour lui, il sera récompensé. Voilà pourquoi cette résolution-là, c'est très important aussi. Utiliser notre vie pour œuvrer pour le Seigneur, pour témoigner pour le Seigneur, pour que les gens tout autour de nous ils puissent connaître ce plan de salut que Dieu a préparé de toute éternité, pour que l'humanité ne soit pas condamnée, mais qu'elle puisse vivre, qu'elle puisse avoir la vie éternelle. Et comme je dis toujours, Jésus-Christ, il n'est plus là. Les apôtres, ils sont plus là. Les grands évangélistes ne sont plus là. Qui c'est qui est là? Nous sommes là. Nous sommes la bouche, les mains et les pieds de Dieu. Esaïe nous dit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. Et c'est à nous de faire ça. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Voilà pourquoi nous étudions la Bible. Parce qu'il faut que nous ayons quelque chose à dire à ceux auxquels nous témoignons. Voilà pourquoi nous devons connaître celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Et Pierre, il nous le dit, croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut devenir adulte? En étudiant la parole. Car tout est là. Ici, il nous dit tout ce qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il fera. Tout est là. Et c'est ça que nous devons faire et nous devons dire à tous ceux qui nous entourent, à nos voisins, à ceux qui travaillent avec nous, à ceux qu'on ne connaît pas, à ceux qu'on rencontre dans la rue. Nous devons leur dire. Et beaucoup de gens ils disent, mais je suis timide, je ne sais pas quoi leur dire, ils ne m'écoutent pas. Mais Dieu, il te dit, parle, c'est tout ce qu'il te dit. S'ils écoutent, il nous dit dans Ézéchiel, il nous dit, j'étais établi en tant que sentinelle. Une sentinelle, il fait quoi? Une sentinelle, il avertit. Voilà, si continuez sur cette route-là, vous allez subir la colère de Dieu. Vous irez en enfer. Dieu, il va vous juger. Vous serez condamnés. Nous devons dire à ces gens-là qu'il y a un Dieu qui les aime. Un Dieu qui a tout fait pour que l'humanité il puisse être sauvée. Et si les gens, comme je dis toujours, ils vont en enfer, c'est pas la faute de Dieu. Mais c'est notre faute. Parce que Dieu nous révèle ce qu'il veut dans sa parole. Et alors, il y a deux choses à faire. Ou nous écoutons Dieu, ou nous écoutons le diable. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Lorsque nous serons devant Dieu, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, Dieu, il leur dira, Jésus, il leur dira, que ta volonté soit faite. Tu n'as pas voulu me suivre. J'ai tout fait pour cela. Mais tu n'as pas voulu. Voilà. Va et tu vas rejoindre celui que tu as écouté. Il n'y a pas trois voix ou quatre voix. Il n'y en a que deux. Sauvé ou perdu. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas un endroit intermédiaire comme des gens ils nous prêchent. La Bible, c'est inconnu cette troisième voie intermédiaire. Qu'on appelle ça les purgatoires, un lieu de souffrance, dans lequel nous, lorsqu'on meurt, on n'est pas purifié. Il y a toujours quelque chose à purifier. Donc, il nous envoie dans cet endroit où les gens, ils souffrent, ils peinent pour qu'ils soient purifiés. Mais nous savons, à travers la Bible, qu'il n'y a que Jésus qui purifie. Et que lorsqu'il nous purifie pour pour toujours. Il n'y a aucun péché qui résiste au sang de Jésus-Christ. Aucun. Voilà pourquoi nous devons œuvrer pour lui, travailler pour le Seigneur et dire à ceux qui sont autour de nous que Dieu les aime, que Dieu il a en réserve. Dans Jérémie 31, 17, c'est un verset que je vous répète toujours. L'Éternel, il dit, j'ai de l'espérance pour toi et de l'avenir. Qui peut dire aujourd'hui à un jeune qu'il a de l'avenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ah, ça. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. En plus, avec le temps qui court, n'est-ce pas? Mais pour nous, Dieu nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Tu as de l'espérance. Alors, donnons-nous au Seigneur que cette année, si elle est la dernière, bon, que nous soyons prêts lorsque le Seigneur, il va revenir. Parce que lorsqu'il va revenir, il va me demander, Aldo, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit Aldo pour ne pas dire Marlène, hein. Après chacun, je me mets moi d'abord, hein. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné ça et ça et ça à faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Encore une fois, ce n'est pas le salut qui est en jeu, hein. C'est au tribunal de Christ, hein. C'est là que nos œuvres, elles seront jugées. Ce que nous aurons fait pour le Seigneur, ils recevront une récompense. Ce que nous aurons fait pour nous-mêmes, ils seront brûlés. Il ne restera plus rien. Voilà pourquoi, à ce tribunal-là, à ce jugement-là, il y aura de la joie, mais il y aura aussi des pleurs. Parce que nous n'aurons rien fait pour le Seigneur. Mais nous sommes sauvés. Comme il dit Paul, sauvé, hein, par les cheveux, hein, comme à travers du feu. Parce qu'on a Jésus-Christ, mais Dieu il nous dira, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je t'ai donné, vous en souvenez, la parabole des talents. On donne des talents, c'est pour les faire fructifier, et pas pour les garder pour nous, ou les mettre sous terre. Voilà cette autre solution. Et il y a la sixième solution, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Pas avec quelques-uns, pas avec ceux que j'aime bien, avec tous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Jésus, il nous a dit, je vous donne la paix. Et je vous donne pas comme le monde, il donne. Et c'est ça, encore une fois, que nous devons mettre en pratique. Si nous avons la paix dans une assemblée, dans une église, dans la famille, s'il y a la paix, tout marchera bien. Mais lorsqu'il y a des divergences, lorsqu'il y a des luttes, alors là, c'est terminé. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? C'est parce qu'il n'y a pas la paix. Si on appartient au Seigneur, cette paix, il faut qu'il soit là, parmi nos frères et sœurs. Il faut les aimer tous, pas regarder les caractéristiques des gens. D'où est-ce qu'il provient, la couleur, s'ils sont riches, s'ils sont pauvres, s'ils peuvent me redonner ce que moi je lui donne, ou vice-versa. Il faut être en paix avec tous, car le Seigneur il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Voilà là, ces quatre, six résolutions que j'ai prises pour ma propre vie, et je crois qu'elles sont utiles aussi pour vos vies. Je vais vous les énoncer encore. Première, c'est tenir la langue. La deuxième, persévérer malgré tout. Troisième, une vie purifiée. Quatrième, plus de temps de prière. Cinquième, œuvrer pour le Seigneur. Sixième, arrêtons les disputes. les querelles, les mésententes. Et soyons en paix. Parce que le prince de paix, il va venir. Et qui dit le prince de paix? Et il dit que nous devons vivre ces choses-là. Voilà, je prends encore 5 minutes pour vous donner, pour ceux qui prennent note. Moi, j'ai noté ça. Il y a 7 versets qui peuvent nous aider pendant cette année 2020. Je vais juste vous les lire et ensuite que ces versets ils puissent être nôtres pendant cette année-là. Le premier verset, il se trouve dans Philippiens 13, 14. Il dit, « Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nos échecs du passé, les choses qu'on a mal fait, oublions toutes ces choses-là, mais tendons nos regards, nos pensées vers ce but que Dieu il nous a donné. Jésus-Christ, il va revenir bientôt et que nous puissions dire lorsque nous serons devant lui, j'ai combattu le bon combat. Le deuxième verset, il se trouve dans Ésaïe 43 qu'on a déjà lu et il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ici, le Seigneur, il nous dit, encore une fois, de ne pas regarder derrière et de regarder ce chemin qu'il nous a tracé. Et ce chemin, qui c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce chemin, il y a le repos, la paix et la vie. Troisième verset, psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ne regardons pas, j'ai 40 ans, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans. Nous devons compter nos jours et se dire, le Seigneur, il peut venir à n'importe quel moment. Comment est-ce que je suis par rapport au Seigneur? Il y a ce verset d'Amos qui nous dit que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Enseigne-moi à compter les jours. Ah, je suis jeune, j'ai encore toute une vie devant moi. Non! Le Seigneur, il peut venir à n'importe quel moment. Prends garde à toi, que nous puissions compter ces jours. Et c'est dit, c'est ce qui compte, c'est se préparer. Être prêt lorsque le Seigneur va revenir. Il y a un autre qui dit, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Hein? Sachons que toutes les bénédictions de Dieu, ils sont là dans cette année 2020. Ils seront là. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est toujours tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ces miracles, ils ne s'arrêteront pas. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils continueront si nous accomplissons sa volonté, si nous lui rendons honneur et gloire. Il y a aussi dans Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et voilà. On dit des gens, ah, je ne connais pas la volonté de Dieu. Comment tu ne connais pas la volonté? Oh, homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Révèle-moi ta volonté. Lis la Bible, étude la Bible. Elle est là, la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Ben, c'est ça ce qu'il nous demande. Hein? c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est toutes ces choses-là. Psaume 19, 15. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Voilà. Est-ce qu'on veut terminer cette année avec ces paroles et les reprendre après-demain? Reçois favorablement, Seigneur. Reste à côté de moi, dirige-moi, guide-moi. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Hein? Et aussi, Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Soyez bons les uns vers les autres. » Comment ? Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant. C'est difficile à pardonner, n'est-ce pas ? Mais si on n'a pas le Seigneur, comment voulez-vous ? On n'arrivera pas. Prenons cette décision que cette année 2020, il soit une année de pardon. Car le Seigneur, encore une fois, je le répète, il peut venir à n'importe quel moment. Et si on a le pardon de Dieu dans notre cœur, alors c'est à ce moment-là que nous allons recevoir tout ce dont Dieu il nous a promis. Que le Seigneur nous bénisse dans cette nouvelle année et que nous soyons tous prêts à faire tout ce qu'il désire pour qu'il puisse être glorifié autour de nous. Amen.